Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
C'est Europe 1, il est 7h.
C'est une opération qui se fait aussi dans l'urgence parce qu'on est dans une course contre la montre. Aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est une répétition générale de ce qu'on aura à connaître pendant plusieurs semaines.
Dans la course à la vaccination, les pompiers sont appelés en renfort. Ils ont commencé à vacciner hier dans leur caserne.
Le pape François poursuit son voyage en Irak ce matin. Il doit faire escale à Mossoul, une ville ravagée par l'État islamique.
80% des Français estiment que Nicolas Sarkozy ne peut plus revenir en politique. Sa condamnation dans l'affaire des écoutes est un obstacle désormais insurmontable. C'est le résultat d'un sondage IFOP.
Et puis en ce dimanche de fête des grands-mères, un hommage ce matin, celui de la petite fille de Juliette Gréco. Elle sort un premier best-of de sa grand-mère.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et direction donc l'Irak pour débuter ce journal avec la fin d'un déplacement historique. Le pape François achève aujourd'hui sa toute première visite dans le pays.
Après avoir rencontré l'ayatollah Sistani hier, le pape François se rend notamment à Mossoul ce matin, ville meurtrie par les atrocités de Daesh. On va suivre cette dernière journée avec vous, Jean-Sébastien Soldaini. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Irak. Vous vous trouvez à Erbil où vient d'atterrir le pape François.
Une arrivée où il a été accueilli par le président du Kurdistan et une haie d'honneur. Une centaine de personnes autour du tapis rouge agitent des branches d'olivier et de palmiers en signe de bienvenue. Vêtus de costumes traditionnels, ils chantent en différentes langues. Nous sommes heureux d'accueillir le pape François. Pendant ce temps, le souverain pontife prend le temps de saluer les représentants des différentes communautés kurdes, yézidis, musulmans, juifs. Il est en ce moment dans le salon d'honneur de l'aéroport d'Erbil. Quelques minutes d'entretien avec les responsables locaux avant d'embarquer à bord d'un hélicoptère. Première étape, Mossoul, la ville meurtrie par les exactions de l'État islamique. Une courte prière est prévue sur place au milieu des ruines de l'église Osh al-Bayra. Un moment de soutien à la petite centaine de familles chrétiennes qui a fait le choix de retourner vivre là-bas. François n'y restera pas plus d'une demi-heure. Il doit se rendre ensuite à Karakoche pour célébrer une cérémonie dans l'église de l'Immaculée Conception. Karakoche, autre ville ravagée par Daesh et peuplée à 99% de chrétiens.
Et on suivra toute cette journée avec vous, Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 en Irak.
Oui, avec tous ces ravages des différents califats, notamment l'État islamique, il y a bien sûr des réfugiés chrétiens, notamment le missionnaire, le père Patrick Desbois, qui s'occupe de tous ces réfugiés sur place en Irak, sera notre invité tout à l'heure à 8h15. L'actualité en France, Marguerite, c'est cette nouvelle dynamique dans la vaccination.
Oui, gros coup d'accélérateur donné hier par les autorités. 220 000 injections grâce à l'ouverture de nouveaux centres et à la réquisition de certaines professions. Les militaires, les pompiers ont été appelés en renfort. Reportage dans la caserne du 13e arrondissement de Paris, signé Johanna Chabas.
Vous êtes prêts ?
Parfait.
Je vous pique.
Une scène de vaccination comme les autres, sauf que l'infirmier et pompier, 50 sont mobilisés pour vacciner 500 personnes ce week-end. De quoi ravir Colette, 77 ans.
Le paysage masculin est plus agréable. Je suis plus en confiance, parce que je sais que s'il y a un problème quelconque, ils ont quand même une expérience que certains autres centres ne présenteront pas.
Colette cherchait un rendez-vous depuis un mois, alors cette opération est une aubaine pour elle. Le gymnase de la caserne a été transformé en à peine 48 heures en centre de vaccination éphémère. Des tentes ont été montées pour l'occasion. Aurélien Rousseau, directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, parle d'une accélération de la vaccination.
C'est une opération qui se fait aussi dans l'urgence parce qu'on est dans une course contre la montre. On est tous mobilisés parce qu'on sait que c'est maintenant qu'on doit réussir ce passage à une échelle qui sera sans commune mesure, x4 sans doute dès le mois d'avril en vaccination. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est une répétition générale de ce qu'on aura à connaître pendant plusieurs semaines.
Mais pour l'instant, pas de nouvelle catégorie de population vaccinée. Ces vaccins Pfizer restent réservés aux 75 ans et plus ou encore aux personnes à très haut risque.
Johanna Chabas, l'objectif du gouvernement, on le rappelle, est d'avoir vacciné 20 millions de personnes à la mi-mai.
En attendant les effets de la vaccination, pas question de baisser la garde. Hein. Les rassemblements sont toujours interdits.
Oui, c'est le message donné par les autorités hier à Paris. Les quais de Seine pris d'assaut en ce samedi ensoleillé ont été évacués. La distanciation n'y était pas respectée. À Bordeaux, la police patrouille également sur les berges de la Garonne. C'est ce qu'a constaté notre correspondant Stéphane Place.
Bonjour messieurs, dames. On va vous demander soit de refermer vos bouteilles, soit de les jeter. On vous demandera de respecter, après votre cigarette, le port du masque.
Je vous remercie.
Rappel des interdictions et des nouvelles consignes. Ce week-end, ces policiers municipaux bordelais vont surveiller de près les rassemblements sur les quais bordant la Garonne. un espace de balade très fréquenté qui reste ouvert, mais sous conditions, insiste le maire de Bordeaux, l'écologiste Pierre Urmic.
Il ne faut pas punir toute une population au motif que certains commettent un certain nombre d'incivismes sanitaires. Ce qu'on peut observer sur les quais, c'est qu'il y a des attroupements autour de certains bistrots, autour de certaines tireuses de bière, totalement contraires aux règles élémentaires de distanciation et de port du masque. C'est contre ça qu'il faut réagir.
Pas de fermeture, mais un encadrement plus strict, une approche diversement appréciée par ces jeunes installés sur les quais de Bordeaux.
On a fait un test PCR ce matin même, on sait qu'on n'a rien, pourtant on est encore venu nous dire que voilà.
Mais moi je pense que je préfère être confiné, comme ça au moins tout est clair, puisque là ils restreignent les gens de boire sur les quais, mais en fait... C'est plus en cachette qu'on le fait.
Trouver un point d'équilibre entre restrictions renforcées et fermeture, pas simple à faire comprendre, avec le retour des beaux jours et la lassitude perceptible chez ces Bordelais. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Il faut que l'on soit prêt le jour où on pourra appuyer sur le bouton. Le Premier ministre hier a évoqué la réouverture des restaurants. Ça n'est pas pour tout de suite, mais ça se prépare. Des réunions vont s'ouvrir la semaine prochaine avec les professionnels du secteur.
Et en attendant, certains restaurateurs anticipent cette reprise. Ils veulent assurer une sécurité maximale pour les clients. Un protocole zéro Covid est ainsi expérimenté dans le restaurant La Maison des Têtes à Colmar. Mélina Fachin s'y est rendue pour Europe 1.
Tout a été conçu dans ce restaurant pour que personne n'attrape le Covid-19. C'est Victor Vincent, patron de la société Concept Light, spécialisée dans les rayons UV, qui est à l'origine du projet. Dès la porte d'entrée, on est déjà protégé par une sorte de scotch high-tech.
C'est un film auto-adhésif qui est collé sur cette poignée là que vous entendez. C'est un film antibactérien en fait.
À table, les clients sont séparés par des plexiglas, chacun a sa bouteille de gel hydroalcoolique et dans la cuisine, une lampe à ultraviolet a été installée au-dessus d'une sorte de tunnel dans lequel passeront tous les plats avant d'aller en salle.
Le serveur vient avec son chariot, il se met derrière le plexiglas pour être complètement protégé des rayons UV et après il y a un détecteur qui se met en place quand le chariot arrive et ça allume l'UV entre 1 et 2 secondes. Qui permettent de désinfecter, de décontaminer le plat en fait.
Un investissement total de plus de 10 000 euros pour la patronne du restaurant, Marilyn Girardin, touchée elle-même par le Covid, mais cela valait clairement le coup.
Moi l'ayant vécu, un ami qui est resté 3 semaines dans le coma, on n'a pas envie que nos équipes vivent ça, que nos clients le vivent, il fallait effectivement faire attention à tout ça.
Et surtout, elle espère que tout ce protocole, validé par un médecin, permettra enfin aux restaurateurs de rouvrir, une bonne fois pour toutes. Colmar, Mélina Fachin, Europe 1.
Et sachez qu'hier, Jean Castex a assuré aux restaurateurs que les dispositifs d'aide ne seraient pas débranchés dès la réouverture des établissements. À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, le collectif On arrête toutes appelle à un rassemblement place de la République à Paris. Un rassemblement pour demander l'égalité.
7h07, vous restez avec nous dans un instant. 4 Français sur 5 ne veulent pas d'un retour en politique de Nicolas Sarkozy. Sa condamnation, selon eux, le discrédite. À tout de suite.
Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Marguerite Lefebvre, une semaine après sa condamnation dans l'affaire des écoutes. Voilà un chiffre qui devrait remonter aux oreilles de l'ancien président Nicolas Sarkozy. 80% des Français ne veulent pas qu'il revienne en politique.
Oui, c'est le résultat d'un sondage IFOP publié dans le journal du dimanche ce matin. Cette condamnation à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, est un obstacle. La plupart des Français estiment d'ailleurs que les hommes politiques sont plutôt favorisés par la justice. Écoutez Frédéric Dabil, directeur général adjoint de l'IFOP.
Il y a toujours une représentation majoritaire chez les Français, c'est que la justice est moins sévère dans ses décisions à l'égard du personnel politique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'effet de contexte. Il y a eu des condamnations retentissantes de femmes et d'hommes politiques, Patrick Balkany, cette semaine Nicolas Sarkozy. Ça ne change pas qu'il y a toujours cet adage qu'on a connu avec Jean de La Fontaine, selon qu'on soit puissant ou misérable, on n'est pas traité de la même manière. Il y a seulement 1 Français sur 5, ce qui n'est pas beaucoup, qui le sentiment que Nicolas Sarkozy, dans son procès, a été moins bien traité qu'un simple citoyen. Il n'y a que les personnes âgées de plus de 65 ans et surtout les sympathisants de droite qui s'inscrivent toujours dans une logique de fan vis-à-vis de Nicolas Sarkozy et eux voient l'acharnement et la persécution.
Frédéric Dabil, l'IFOP avec Damien Mestre. Nicolas Sarkozy, lui, a décidé de contre-attaquer. Il fait appel en dénonçant le harcèlement dont il s'estime victime. « Je n'accepte pas ces attaques répétées contre la justice », voilà ce que lui répond ce matin son successeur à l'Élysée, François Hollande, dans Le Parisien.
C'est un business maintenant qui attire de plus en plus de malfaiteurs. 8 personnes ont été arrêtées hier. Elles sont soupçonnées d'avoir monté un réseau de passeurs vers l'Angleterre.
Toute la filière a été démantelée entre la région parisienne et le nord de la France. Les 8 suspects auraient emmené des migrants sur les plages de la Manche direction l'Angleterre, en échange d'argent bien sûr. Toutes les précisions avec Guillaume Biais.
C'est au moment où les passeurs rentraient chez eux en région parisienne que les policiers les ont interpellés. 8 suspects afghans qui, en 3 jours, venaient d'envoyer des dizaines de clandestins vers l'Angleterre à bord de petits bateaux. Au total, au moins 70 migrants seraient passés par cette filière, selon Xavier Delrieux, le chef de l'office central qui lutte contre l'immigration irrégulière.
C'est très lucratif, hein, la place sur un Zodiac pour un migrant, c'est 2500 à 3000 euros. Donc, quand vous avez un bateau qui contient des fois de 10, voire 20, 30 ou 40 migrants, bah ça vous fait des profits assez conséquents. Et donc du coup, c'est devenu un mode de passage très courant dans le nord de la France.
Un fléau contré dans cette affaire par l'unité de renseignement opérationnel, une structure spéciale avec des policiers français et britanniques côte à côte qui détectent ensemble ces filières et alertent les enquêteurs. L'an dernier, il y a eu plus de 860 traversées ou tentatives, 4 fois plus que l'année précédente.
Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1.
Allez, on passe au sport avec les championnats d'Europe d'athlètes qui se poursuivent en Pologne. On va suivre aujourd'hui le français Kevin Mayer.
Il est en tête de l'heptathlon après la première journée d'épreuve et notamment le saut en hauteur. Kevin Mayer est largement favori aujourd'hui.
Enfin, je m'éclate là. J'attendais la hauteur pour faire des prédictions. C'est vrai qu'on connaît ma deuxième journée. Elle est quand même costaud. Après, on est en heptathlon. Hein. On va pas se mettre la médaille autour du cou avant de l'avoir parce qu'il y a encore beaucoup de taf. Bref, c'est comme tout. Hein. C'est des courants ascendants. Hein. C'est vrai que depuis Doha, je suis un peu dans une spirale négative et j'ai du mal à m'en sortir. J'ai du mal à me retrouver. Et là, j'ai vraiment l'impression de m'être retrouvé, d'avoir retrouvé ce qui fait que je prends autant de plaisir en championnat.
Kevin Mayer avec Corinne Boulou en football. Le PSG s'est qualifié hier pour les 8e de finale de la Coupe de France. Victoire 3-0 face à Brest. Grosse désillusion en revanche pour Lorient et Lens, éliminés par les amateurs du Puy et du Red Star.
Enfin, c'est aujourd'hui la fête des grands-mères. Voilà une petite fille qui a décidé de faire les choses en grand.
Oui, la petite fille de Juliette Gréco rend hommage à sa grand-mère décédée en septembre dernier. Elle dévoile un premier best-of de son œuvre sur le thème du féminisme. Angèle Châtelier.
Au début des années 50, Juliette Gréco chantait « Je suis comme je suis », un poème de Jacques Prévert, avec lequel elle revendique son indépendance.
Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats.
Julie Amour-Rossetti, sa petite fille, souhaitait faire honneur à l'engagement de sa grand-mère, au texte féministe et avant-gardiste qu'elle chantait.
J'avais envie de montrer tout ce qu'elle avait fait pour que nous soyons des femmes libres et des hommes libres aussi.
Et comment vous avez fait le choix des chansons ?
Beaucoup se sont imposées à moi, que ce soit les pingouins pour parler de l'homophobie qui est présente.
Les petits pingouins se tiennent la main de façon divine.
Mon fils chante, c'était pour nous une chanson très importante dans la famille.
Au mépris de leur vie, mon fils chante.
Et d'autres, non. Les femmes de la poste, je l'ai complètement découverte. Et vraiment, j'ai trouvé qu'elle était incroyable pour l'époque.
Je suis celle qu'on ne reçoit nulle part. Les filles comme moi, les inutiles. Il vaut mieux les tenir à l'écart.
Elle a aussi fait des trouvailles dans la maison de sa grand-mère, des jouets, des photos de famille ou d'elle en vêtements colorés, loin de ses robes noires qu'elle portait sur scène. Des souvenirs de Juliette avant d'être Gréco, qui pourrait être exposée prochainement dans un musée.
Déshabillez-moi.
Voilà, ce best-of de Juliette Gréco s'appelle Liberté, Égalité, Féminité.
Merci Marguerite. À tout à l'heure pour le Grand Journal de 8h.